Bonjour à tous. Je vais commencer aujourd'hui un peu différemment de d'habitude, car je suis en phase d'adaptation. Il y avait beaucoup à manger hier soir. Vous savez que vous regardez ceci, pardonnez-moi avant que je n'entre dans le vif du sujet. Vous commencez à regarder vos costumes d'un œil un peu différent pendant les jours saints, et vous vous dites, bon, ce sont ceux-là qui m'iront le dernier jour des pains sans levain. Je vais mettre celui-là de côté. Mais je m'égare. Je vais remonter dans le temps. Revenons au moment où les Israélites étaient en Égypte. À cette époque, ils étaient enfermés dans leur maison, les portes étaient fermées. Imaginez ce qu'ils pensaient après toutes les plaies qui s'étaient abattues sur eux jusqu'alors. Car je suis sûr que ce sont des êtres humains qui n'avaient pas compris Dieu depuis des générations. Ce n'était donc pas pour eux, et vous devez imaginer qu'ils avaient peur. Ils étaient probablement inspirés par ce qu'ils n'étaient pas touchés par les plaies, mais ils devaient aussi être un peu nerveux, du genre oh, ces grenouilles se sont un peu rapprochées, selon les circonstances, mais ils étaient probablement très tendus. Ils étaient chez eux. Ils avaient fermé les portes, ils avaient mis du sang sur les montants. La nuit est tombée, et comme ils n'avaient pas de fenêtres en verre, ils avaient des ouvertures à la place, et ils ont commencé à entendre les cris des Égyptiens depuis leur maison. La mort commençait à s'abattre sur toute la nation. Et les Israélites se trouvaient au milieu de tout cela. Ils étaient esclaves au sein de cette nation, et ils entendaient ces cris. Ils étaient chez eux, leurs chaussures lacées, leurs bâtons à la main, prêts à partir. Probablement leurs manteaux repliés, leurs ceintures nouées, leur pain préparé, à nouveau sans levain, car ils devaient faire vite. Mais ils savaient qu'ils devaient être prêts à partir. Un appel leur serait lancé pour leur signifier qu'ils devaient partir. Et ils ne pouvaient pas hésiter, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils ne pouvaient pas tarder. Ils ne pouvaient pas attendre et faire leurs bagages tranquillement, comme lorsque nous partons pour une fête et que nous préparons nos affaires sur plusieurs jours. Non, c'était un moment urgent au milieu de ce qui aurait été le chaos. L'Égypte était une grande nation et tout autour d'eux, les premiers-nés et leurs familles mouraient. Encore une fois, vous auriez entendu des cris. Dieu était activement en train de délivrer son peuple d'Égypte. Il les sortait de l'esclavage. Il les sortait de ce qui était essentiellement une condamnation à mort en raison de la façon dont ils étaient traités. Mettez-vous à leur place. Imaginez. Ce n'était pas simplement, oh, du sang sur les lampadaires. Nous entrons, nous allons prendre un bon dîner, puis nous partons. Bien sûr, ils ont pillé l'Égypte, mais ils devaient avoir peur. Si vous êtes encerclé, même si vous savez que Dieu est de votre côté, et que vous êtes entouré des cris de dizaines, de milliers, voire de millions de personnes, vous auriez peur. Mais finalement, il les a délivrés. Il les a fait sortir d'Égypte. Il les a sortis de tous ces problèmes. Et mes frères, cela est représenté afin que vous et moi puissions en faire l'expérience, y réfléchir, savoir, comprendre et saisir que Dieu fait la même chose pour vous et moi aujourd'hui. Nous avons été appelés à un moment donné. Un déclic s'est produit dans notre esprit. Et à partir de ce moment-là, nous avons quitté l'Égypte ou nous avons quitté l'Égypte. Mais je vous le demande, l'avons-nous fait? Avons-nous quitté l'Égypte? Avons-nous laissé l'Égypte derrière nous ou y a-t-il des moments où nous commençons à regarder en arrière vers l'Égypte? Nous pensons à ce qui se passe. Nous pensons aux choses que nous avons faites auparavant. Nous laissons nos pensées s'égarer. Alors que nous sommes assis ici en ce premier jour des pains sans levain, que nous imaginons chasser le péché, l'Égypte étant une sorte de péché, chasser le péché de nos vies, nous devons le faire non seulement physiquement. Nous l'avons fait. Nous avons terminé. Cet endroit est sans levain. Ce campus est sans levain. Nous sommes sans levain. Et tous ceux qui, à travers le monde, entendent cela l'entendront l'année prochaine. Votre monde physique est sans levain. Mais nous devons aussi le faire mentalement. Et ce n'est pas seulement extérieur, encore une fois, c'est intérieur. Ce n'est pas seulement pour un temps. Sans levain physique, oui. Mais sans levain spirituel, non. Cela doit être pour de bon. Complètement. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous devons garder les yeux fixés sur l'avenir, sans regarder en arrière d'où nous venons. Quitter l'Égypte spirituelle nécessite bien plus qu'un simple départ physique. Cela nécessite une transformation complète de la raison pour laquelle nous avons quitté l'Égypte et de ce à quoi nous aspirons. C'est donc ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Nous allons voir ce que signifie quitter l'Égypte spirituellement, et aussi physiquement dans une certaine mesure, puis nous apprendrons comment nous empêcher de regarder en arrière vers l'Égypte, ce qui est fatal, même si nous nous en sommes échappés. Ouvrez le livre de l'Exode. Chapitre 6, Exode chapitre 6. Et nous commencerons au verset 5. Exode 6, verset 5. Ouvrez tous votre Bible à cette page. Verset 5 d'Exode 6. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Gémissement, servitude. Dis donc aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous la charge des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude. Ce n'était pas bon pour Israël. C'était terrible. Et cela empirait avec le temps, fabriquant des briques sans paille, effectuant des travaux très pénibles. Ils étaient esclaves. Parfois, je pense que nous pouvons un peu romancer l'image d'Israël. Nous pensons, oh, ils ont travaillé dur. Nous avons des images dans les livres d'histoire, et cela nous fait oublier le fait qu'ils étaient esclaves. Les Égyptiens voulaient les briser. Ils étaient soumis au travail forcé. Continuons au verset 6, « Je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » Verset 7, « Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous la servitude des Égyptiens. » Ce n'était pas seulement difficile en Égypte. C'était de l'esclavage. Vous pouvez l'imaginer. Ils étaient battus, et tous les aspects que nous associons à l'esclavage moderne, ce n'était pas un serviteur sous contrat comme cela aurait été le cas en Israël. Non, c'était de l'esclavage. Donc, s'ils ne faisaient pas le travail qui leur était demandé, ils étaient battus. Je suis sûr que leurs conditions de vie n'étaient pas très bonnes. Avaient-ils beaucoup de nourriture? Non, probablement pas. Ils en avaient juste assez. Tout le reste, toutes les bonnes choses, allaient aux Égyptiens. C'était mauvais. C'était dur. Ce n'était pas facile, et parfois, quand nous repensons à notre Égypte, cela ne semble pas si terrible. N'est-ce pas? Mais l'Égypte n'est pas. L'Égypte est l'Égypte. C'est le péché. Il est facile pour nous de regarder en arrière et de minimiser un peu le péché. Il essaie de nous ramener en arrière. Il essaie de nous ramener, et les jours des pains sans levain représentent une période où nous nous examinions physiquement pour la Pâque, et aujourd'hui, nous entrons dans cette période, nous comprenons cela. Nous éradiquons complètement le péché de nos vies, nous prenons cette Égypte et la mettons complètement derrière nous. Allons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, revenons au Nouveau Testament. Romains chapitre 6. Commençons au verset 16, Romains chapitre 6 verset 16, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, celui à qui nous choisissons d'obéir, c'est celui que nous servons. Car ne vous y trompez pas, frères, nous sommes des esclaves tout comme ces Israélites. Nous avons une vie un peu plus confortable que les esclaves israélites. Nous avons de beaux vêtements. Nous avons la climatisation. Nous avons l'électricité. C'est de l'esclavage allégé, si vous voulez. Mais nous sommes toujours des esclaves. Celui à qui nous obéissons, c'est lui notre maître. Continuons, que ce soit du péché qui mène à la mort, ou de l'obéissance à Dieu, qui mène à la justice. Soit nous suivons Satan, soit nous suivons Dieu. C'est un choix binaire. C'est clair et simple. Verset 17. Mes grâces soient rendues à Dieu, parce que vous étiez serviteurs du péché, nous l'étions tous, mais vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine qui vous a été transmise. Ayant été affranchis du péché, ou, pourrait-on dire, ayant été affranchis de l'Égypte, vous êtes devenus serviteurs de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. En gros, cessez de vivre la vie que vous meniez auparavant. Dieu nous en a libérés, il nous a aidés à échapper à l'Égypte, au péché, et maintenant nous devons changer. Maintenant, nous devons éliminer le levain, nous aplatir complètement afin de devenir plus semblables à Jésus-Christ, comme nous l'avons imaginé hier soir. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament, alors passons au chapitre 8 de Jean. C'est délibéré. Le christianisme n'est pas un pilote automatique, et les jours saints sont là pour nous rappeler les moments où nous devons prendre des décisions délibérées sur ce que nous faisons. Car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés et ont pris la Pâque, vous avez entendu parler, je suis sûr que vous l'avez tous étudié, de prendre la Pâque de manière indigne, ou sans révérence, ou sans réfléchir, sans nous examiner pour savoir, d'accord, je veux que ce contrat annuel se poursuive, que nous allions avec le sang du Christ et le corps du Christ. Mais c'est une décision délibérée que nous avons prise, et cela doit continuer à être le cas. Chapitre 8, verset 34. Le verset 34 dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché, car c'est le maître que nous suivons. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, nous libère du péché, vous serez vraiment libre. Le changement que nous avons opéré était différent, évidemment, de celui auquel Israël a échappé. Le changement que nous avons opéré nous a permis d'emprunter un chemin dont la trajectoire nous conduit au royaume de Dieu, nous conduit à devenir des êtres divins. Je l'ai dit tant de fois, mais cette affirmation est presque impossible à comprendre pour vous et moi. C'est comme si on vous demandait, comment allez-vous? Et que vous répondiez, oh, je vais devenir Dieu. C'est tellement incompréhensible que c'est difficile de comprendre que lorsque nous avons été libérés du péché, cela nous a mis sur le chemin pour devenir Dieu, l'être qui replie l'univers et pouf, un autre univers. C'est ce à quoi nous nous qualifions pour faire partie. C'est ce que nous essayons de devenir. Chaque jour, nous prenons ce levain, nous le retirons de nos vies, nous restons et devenons plus plats. Puis cela met davantage ce péché derrière nous. Mais nous péchons tous, il y a donc toujours une partie. C'est pourquoi aucun d'entre nous n'est parfait. Nous péchons tous. Il est donc clairement dit que si nous servons le péché, si nous commettons le péché, Mais nous commettons tous le péché, n'est-ce pas? Il y a donc une partie de nous, notre chair, qui aspire toujours à servir le péché. Mais lorsque nous faisons le choix délibéré de ne pas le faire, c'est là que nous commençons à laisser l'Égypte de plus en plus loin derrière nous. C'est un changement, c'est la repentance. C'est ce qu'il faut pour pouvoir résister à la tentation de ne pas regarder en arrière et, si vous voulez, de romancer le passé. C'était tellement plus facile à l'époque. Et nous en avons l'exemple. C'est facile. Allons au chapitre 11 du livre des Nombres. Israël l'a fait encore et encore. Chapitre 11 du livre des Nombres. C'est incroyable. Parfois, les êtres humains doivent vivre des expériences difficiles pour comprendre les leçons qu'ils doivent apprendre. Mais en général, si vous êtes ouvert à l'apprentissage, vous vous brûlez les doigts une fois sur la cuisinière. Vous ne testez pas la cuisinière pour voir si elle est encore chaude. Vous ne revenez pas en vous disant, « Tu sais quoi ? Ça n'a pas fait si mal que cela. Peut-être que cette fois, cela fera du bien. » Non, cela brûle toujours. Revenez plus tard, essayez à nouveau. Non, cela brûle toujours. Nous ne sommes pas stupides. Alors, vous le touchez la première fois, vous pensez. Et vous avez généralement à peu près cette taille quand vous le faites pour la première fois, puis vous réalisez, non, je ne veux plus jamais que cela se reproduise. Et nous apprenons de nos erreurs. En Israël, ils adoraient la cuisinière. Encore et encore. Ce n'était même pas parce que vous leur accorderiez le bénéfice du doute si une génération était passée. Et puis la nouvelle génération arrive. Parce que vous êtes jeune, vous comprenez. Vos parents vous disent, ne touche pas au fourneau. Et vous vous dites, peut-être que vous avez mal touché au fourneau. Et vous en riez. Mais nous avons tous vécu cela avec la génération de nos parents, quelle qu'elle soit. Donc, si cela avait été une autre génération, vous auriez pu penser. Je vais détruire cette analogie, mais tu aurais pu penser qu'ils auraient dit, tu sais quoi? Peut-être que mes parents n'avaient pas raison au sujet de l'Égypte. Peut-être qu'il y a. Mais non, c'était le cours des choses. Ils ont juste touché la cuisinière, touché la cuisinière, touché la cuisinière. Et cela s'est accompagné de miracles. Nombre 11. Vous y êtes déjà. Et verset 4. Nombre 11. Verset 4. Et la multitude mêlée qui était parmi eux eut des convoitises. Eh bien, une distraction. Et les enfants d'Israël pleurèrent de nouveau. D'accord, ils étaient justes. Encore une fois, ils étaient dans une maison, revenant à l'introduction, criant autour d'eux parce que les premiers-nés étaient morts. Ils ont pillé les Égyptiens, ont quitté l'Égypte par la puissance de Dieu, la nation la plus puissante de la terre. Et maintenant, nous en sommes, j'exagère un peu, à 15 minutes de leur voyage. Et la multitude mixte qui les accompagnait, parce que nous voulons suivre ce Dieu, enfin, pendant un certain temps. Et Israël pleura de nouveau, et dit, « Qui nous donnera de la chair à manger ? J'ai faim. » Verset 5. Nous nous souvenons des poissons. Souvenez-vous, à l'époque, que nous mangions librement en Égypte. Nous avions tellement de poissons. Nous n'avions même pas. Il n'y avait jamais. Je pouvais manger à volonté. Il y avait un buffet de poissons. Ils étaient esclaves. Il n'y avait pas de buffet de poissons. Nous pouvions manger à volonté. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. C'était tellement génial en Égypte, sauf pour les coups. Les meurtres et le fait d'être esclaves. Mais mes frères, nous faisons la même chose, n'est-ce pas? Il est si facile pour vous et moi de regarder en arrière et de penser, ce n'était pas si mal. La plupart du temps, j'obéissais à Dieu, ou je faisais ce qu'il fallait, même si je ne comprenais pas. Je n'ai pas fait tant d'erreurs que cela. Et oui, bien sûr, je suis meilleur maintenant, mais il y avait beaucoup d'avantages à l'époque. Je pouvais faire ce que je voulais le vendredi soir ou le jour du sabbat. Quelle que soit la croix particulière, si vous voulez, que nous devons porter dans nos vies individuelles lorsque nous regardons en arrière, il devient facile de penser, ce n'était pas si mal. L'ail était bon. Je dois parfois me pincer parce que je viens d'une ville où l'on mange très bien, Toronto. Et parfois, je me dis, oh là là, j'ai vraiment envie de retrouver les poireaux, littéralement les poireaux, l'ail, le curry. Peut-être pas exactement ce qu'ils avaient, mais c'est facile de regarder en arrière et de penser, puis de faire ce que nous faisons de temps en temps. Nous faisons un voyage là-bas, nous mangeons de la très bonne nourriture, puis nous réalisons, oh là là, c'est cela, le monde. Nous sommes isolés ici, surtout sur le campus, mais même n'importe où dans l'église de Dieu, il y a un certain niveau d'isolement par rapport à cela, à moins que nous ne commencions à adoucir notre esprit et à accepter que la vie que nous menions avant que Dieu ne nous appelle était une vie au service de Satan. Nous ne servions pas Dieu. Nous n'étions pas bondés. Nous ne faisions généralement pas ce qu'il fallait. Nous péchions. Nous étions des pécheurs. Nous n'avions aucune idée de ce qui était juste. Et nous devons regarder en arrière, vers notre vie avant que Dieu ne nous appelle, sans parler du baptême et de l'avenir, mais avant que Dieu ne nous appelle, et dire, non, c'était mal. J'ai péché. J'ai servi le diable. Je n'ai pas servi Dieu. Et nous ne pouvons pas nous justifier, car cela adoucirait notre vision de nos origines, tout comme cela a été le cas pour Israël. Cela les a adoucis. Continuons au verset 6 du chapitre 11 du livre des Nombres, vous y êtes toujours, les poireaux, l'ail et les oignons. Et au verset 6, mais maintenant, notre âme est desséchée, il n'y a rien d'autre que cette manne, qui est descendue du ciel, qui nous a été donnée par Dieu. La même génération. C'est la partie qui étonne Israël. Et je pense que d'une certaine manière, Dieu a choisi un peuple têtu. J'ai beaucoup d'Israélites en moi, donc je peux dire que, d'un point de vue personnel, cela nous donnerait ce genre d'exemple. Parce que je pense que la plupart des autres gens ont réagi en disant, « Eh bien, vous savez, la nourriture est tombée du ciel. On devrait peut-être en profiter plus longtemps qu'une soirée. » Mais non, non, nous sommes tous desséchés. Juste cette manne. Ils se sont souvenus de la nourriture. Ils ont regardé en arrière et vu le positif. Ils ont regardé en arrière et vu toutes les bonnes choses en oubliant les mauvaises. Et c'est cela, les êtres humains. Je pense que c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre esprit pour nous aider à faire face aux situations difficiles. Si vous traversez une épreuve extrêmement difficile, avec le temps, les aspects négatifs de cette épreuve commencent à s'estomper dans votre esprit, et les aspects positifs de ce que vous avez vécu restent. C'est ainsi que fonctionne notre cerveau. C'est un mécanisme d'adaptation qui fonctionne très bien. Sinon, tous les aspects négatifs de votre vie resteraient gravés dans votre mémoire. Vous remarquerez qu'un événement négatif très grave restera gravé dans votre mémoire et que vous ne l'oublierez pas. Vous ne ressentirez pas la même douleur que celle que vous avez ressentie lorsque vous avez vécu cette situation. Il peut s'agir du décès d'une personne, d'une expérience que vous avez vécue, peu importe. La douleur de ce moment s'estompe, mais le souvenir peut rester. Alors qu'avec les expériences positives, Nous avons tendance à nous souvenir également du sentiment positif. C'est ce que Dieu a fait à notre cerveau. C'est une bonne chose, mais spirituellement, cela peut être dangereux. Car spirituellement, cela peut nous permettre de minimiser le négatif et de nous concentrer sur le positif. Cela nous permet de nous concentrer sur la nourriture, mais d'oublier que nous étions esclaves, comme Israël. Bon, passons au chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Chapitre 7 de l'Ecclésiaste, nous allons lire un seul verset pour continuer. C'est l'un de mes versets préférés dans la Bible, car en vieillissant, nous enfreignons tous ce verset, chacun d'entre nous. Verset 10 du chapitre 7 de l'Ecclésiaste, ne dit pas, pourquoi les jours passés étaient-ils meilleurs que les présents? Car tu ne poses pas cette question avec sagesse. Tout le monde dit, eh bien, quand j'étais jeune, nous n'avions pas ce que vous avez tous. Nous devions aller à l'école dans l'obscurité. Quand j'étais enfant, nous transportions un sac de blé soufflé de 20 livres sur le dos pour aller à l'école, et c'était en montée dans les deux sens. Cette génération est faible parce qu'elle ne comprend pas à quel point c'était difficile. Nous le faisons tous. Cela fait partie de la condition humaine, c'est pourquoi la Bible le dénonce et dit « Ne considérez pas le passé comme meilleur que le présent. » Le caractère est-il en déclin? Oui, tout à fait. Le monde se dirige-t-il vers un point où il finira par se heurter à un mur? Absolument. Mais ce n'est pas parce que c'était mieux avant. Non, c'était différent. Alors, qu'est-ce que le péché? Et les gens qui pêchent, ils le font depuis des milliers d'années pour toute l'humanité. Il y a une génération, ils pêchaient simplement de manière beaucoup plus discrète. C'était donc derrière des portes closes. Ils gardaient leurs péchés secrets. Aujourd'hui, les gens s'en moquent. C'est donc au grand jour. Est-ce que cela rend le passé meilleur, ou est-ce que cela rend le présent pire? Je ne pense pas que nous puissions le dire. Et la Bible dit de ne pas le faire. Ne dites pas cela. N'essayez pas de regarder en arrière, car cela atténue le souvenir de ce dont nous sommes sortis, comme regarder en arrière vers l'Égypte. Parce que, eh bien, cette génération est bien pire. Cette époque est bien pire. Je suis sorti d'une époque où nous étions bons et justes, et non, vous ne l'étiez pas. Non, je ne l'étais pas. Nous ne pouvons pas atténuer ce dont nous venons, car cela nous permet de commencer à regarder en arrière et de voir les choses sous un jour positif. Encore une fois, nous sommes sortis d'Égypte, et nous ne pouvons pas regarder en arrière. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Luc chapitre 9. Nous devons nous engager. Luc chapitre 9, verset 58. Luc chapitre 9, verset 58. Jésus leur dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il en adressa la parole à un autre, « Suis-moi. » Mais celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. J'ai des choses à faire. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est notre devoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés, à notre époque, à annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord aller dire adieu à ceux qui sont dans ma maison. » Dans les deux cas, ils regardaient en arrière. Jésus leur dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Alors pourquoi est-il si important que vous et moi arrivions à bien définir d'où nous venons, ce dont nous sommes issus, nos expériences de vie passées? Nous apprenons d'elle. Vous, moi, nous tous, nous sommes la somme de nos expériences. Ce que nous avons vécu pendant nos 15, 20, 50, 70 ans, quel que soit notre âge, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cela peut avoir des aspects positifs et négatifs, mais c'est grâce à ces expériences que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, nous ne pouvons pas regarder en arrière avec nostalgie, car la Bible dit clairement ici que nous serons disqualifiés pour faire partie du royaume de Dieu. Regarder en arrière, si vous regardez en arrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Mes frères, il y a tant de choses dans nos vies, dans l'image des jours des pains sans levain, que nous devons être capables de nous regarder nous-mêmes et d'éliminer les choses qui ralentissent et entravent notre capacité à grandir. C'est pourquoi nous devons éliminer le levain de notre vie. C'est pourquoi nous le retirons de notre propriété, de notre domicile. Nous le retirons de notre vie parce que nous essayons de faire la même chose avec le péché, et certaines choses nous ramènent au péché. C'est ce que nous essayons d'arrêter. Nous essayons d'empêcher Satan de nous tenter et de nous ramener en Égypte par des moyens qui peuvent sembler innocents, mais qui mènent finalement au péché, au levain, à nous. Si vous continuez à jouer le jeu, cela nous éloigne complètement du mode de vie de Dieu. Je pense que nous dirions tous, non, je ne m'éloignerai pas du mode de vie de Dieu. Toutes les personnes qui ont quitté l'Église de Dieu à un moment donné ont dit, je ne m'éloignerai jamais de ce mode de vie. Toutes sans exception. Et elles l'ont dit avec conviction, et elles le pensaient vraiment. Ce n'était pas une blague. Ils le pensaient vraiment. Mais à un moment donné, ils ont commencé à regarder en arrière. Ils ont commencé à voir le passé. Cela m'étonne, car j'ai vu cela se produire de nombreuses fois. Les gens qui viennent au siège, que l'on apprend à mieux connaître, qui sont venus ici, ont renoncé au succès, à l'argent et à divers autres aspects de leur vie, ont quitté leur vie, sont venus ici pendant un certain temps, puis, finalement, s'ils sont partis, ils reviennent et essaient de revivre la vie qu'ils avaient quittée. Ils reprennent le même travail, dans la même ville. Ils essaient de revivre les mêmes expériences, car ils ont commencé à regarder en arrière et à regretter le passé. Ils ont donc voulu le recréer. Ils ont cessé de se concentrer sur le royaume, sur ce que signifie faire partie de la famille de Dieu, être Dieu, et ils se sont dit, tu sais quoi? Ce n'était pas si mal. J'ai abandonné cela. Tu sais quoi? Je veux retrouver cela. Je veux les poireaux, l'ail, les oignons, et ils avaient oublié les coups et l'esclavage. Parce que cela peut arriver à chacun d'entre nous. Parce que si nous ralentissons, si nous regardons en arrière, cela nous affecte aussi. Cela nous empêche d'avancer aussi vite. Si vous traînez quelque chose derrière vous, peu importe ce que c'est, si vous le traînez parce que vous regardez en arrière la chose que vous traînez avec vous, oh, mon ancienne vie, vous ne regardez pas où vous allez. Et si vous avez déjà commis cette erreur, parce que tout le monde a déjà commis cette erreur, lorsque vous marchez. Je me rends au bureau le matin et l'après-midi, et j'ai mon téléphone portable, donc je lis les actualités. Et il m'est arrivé plusieurs fois de croiser des gens, notamment des personnes qui promenaient leurs chiens, je me souviens d'un cas en particulier, et on fait presque attention à dire bonjour à la personne qui regarde son téléphone, qui lit les actualités, parce qu'on a peur de l'effrayer. Mais je l'ai fait plusieurs fois, et on se rend compte que si on ne fait pas attention, on ne se déplace pas aussi vite, on ne marche pas aussi vite, on n'est pas aussi concentré, parce qu'on ne fait pas attention à l'endroit où on va, on fait autre chose. C'est une distraction, sans parler du fait de regarder en arrière. En d'autres termes, s'attarder renforce la tentation. Si nous nous attardons, si nous n'allons pas assez vite, Si nous ne restons pas concentrés, cela renforcera la tentation dans nos vies. Revenons à la Genèse, chapitre 19. S'attarder renforce la tentation. Genèse chapitre 19. Nous connaissons ce récit. Nous allons y faire quelques sauts. Commençons au verset 15. Genèse chapitre 19, verset 15. L'histoire de l'eau. Verset 15. Le matin venu, les anges pressèrent l'eau. Ce n'était pas l'eau, il est temps de partir. Allons-y. Tout est prêt. Prenons tout. Montons dans la voiture. Attachez vos ceintures. C'est parti. Non, c'est. Les anges pressèrent l'eau, comme pour dire, dépêche-toi, nous devons partir d'ici. Le feu et le soufre vont s'abattre sur cette ville. Ils dirent, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de cette ville. Il fut un temps où cela tombait du ciel, et les anges poussaient et s'attardaient. Mais, et au verset 16, et tandis qu'ils s'attardaient, l'eau était un peu lent à partir. Pendant qu'ils tardaient, les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles, le Seigneur étant miséricordieux envers lui, c'est-à-dire, je te pardonne de ne pas avoir fait ce que je t'avais dit de faire et de ne pas être sorti rapidement de la ville, je te montre ma miséricorde, voilà ce que Dieu a fait. Et ils le firent sortir et le placèrent hors de la ville. L'eau n'a donc pas quitté l'Égypte. L'eau a été emmenée hors d'Égypte. Il a tardé. Pensez à ce qui s'est passé la nuit précédente, les coups frappés à la porte, tous ces gens dehors, mais il a tardé, il a retardé son départ. Il n'a pas montré l'exemple. Il n'était pas celui qui guidait sa famille et disait, nous devons quitter cette ville pécheresse. Nous devons aller de l'avant. Dieu nous a donné une chance et montré son leadership au sein de sa famille. Il ne l'a pas fait, il a tardé et a dû être sorti de la ville par les anges. C'est un récit grave. Pour quelqu'un, nous pensons souvent à l'eau qui s'enfuit. Nous l'imaginons en quelque sorte s'enfuyant. Non, les anges ont dit, « Bon, tu prends trop de temps, tu vas mourir. » Et ils l'ont emmené hors de la ville. Passons au verset 22. À toi, fuis ici, car je ne peux rien faire tant que tu n'es pas arrivé ici. C'est pourquoi le nom de la ville fut Zoar. Le soleil s'est élevé sur la terre lorsque l'eau entra. Et le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu du Seigneur venant du ciel. Et il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, qui poussaient sur le sol. Et j'oserais dire que c'est à cause du mauvais exemple de l'eau, parce que l'eau s'attardait, parce que l'eau ne faisait pas preuve de leadership dans sa famille, verset 26, mais sa femme regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Cette leçon devrait nous interpeller, mes frères. Il y a plusieurs erreurs. Souvent, c'est elle qui attire l'attention. Mais l'eau n'a pas fait preuve de leadership. Il n'a pas expliqué ni guidé en disant, nous devons partir d'ici. Non, il a tardé, et les anges ont dû le tirer dehors, ce qui a facilité la tâche à sa femme pour penser, oh, je veux juste regarder en arrière. Et elle l'a fait une fois. Si nous regardons en arrière, nous pouvons nous disqualifier du royaume de Dieu. Il est clairement dit, disqualifié. Il est dit que vous n'êtes pas apte à y entrer. Je ne suis pas digne de l'entrée si je regarde en arrière. En fin de compte, cela montre où se trouve notre cœur, n'est-ce pas? Si nous pensons à nous attarder sur le passé, à regarder en arrière, nous le retenons, nous montrons où se trouve notre cœur ou où il commence à aller. C'est ce que les jours des pains sans levain nous aident à corriger, car tout au long de l'année, Les choses peuvent être difficiles. Vous pouvez avoir des épreuves ou des bénédictions. Quoi qu'il en soit, nous avons le temps de baisser notre garde tout au long de l'année, car nous nous réinitialisons au printemps et à l'automne. Mais lorsque nous baissons notre garde, nous pouvons commencer à nous concentrer sur notre vie, notre passé, ce qui est derrière nous, avant que nous soyons appelés, ce que nous aurions pu avoir. Tous les chrétiens sur terre passent par là, surtout quand on vieillit, on passe par là comme un exercice, bon ou mauvais, peu importe comment on le qualifie, car parfois, il est bon de savoir ce à quoi on a renoncé pour pouvoir se réjouir de ce qu'on peut recevoir. Mais nous le faisons tous dans des moments de faiblesse, où l'on se dit, si je n'avais pas été appelé, voilà comment ma vie aurait été. J'aurais fait ceci, cela, et encore cela. Nous n'avons aucun point de référence, car nous inventons littéralement des scénarios dans notre tête. Si je n'avais pas été appelé, je serais devenu ingénieur en aérospatial, j'aurais voyagé sur Mars, je serais devenu président des États-Unis et j'aurais conquis l'Amérique du Sud, ce qui est en quelque sorte un parallèle avec notre époque. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qui se serait passé dans nos vies. Nous ne pouvions pas savoir ce que cela aurait été sans la bénédiction de Dieu dans nos vies. Non, cela arrive, mais nous devons dire non. Dieu m'a choisi et m'a appelé au bon moment dans ma vie pour répondre à cet appel et être capable de changer les choses. Parce que je peux me regarder personnellement, je vais me prendre comme exemple. S'il m'avait appelé ou avait essayé de m'appeler un an ou deux avant que je sois appelé, je n'aurais pas répondu. Non. Avec le recul, je me rends compte que tout allait beaucoup trop bien dans ma vie. Tout était positif, je passais un bon moment, j'aimais vivre dans une grande ville et profiter de tous les avantages qui allaient avec. Je n'aurais pas été intéressé. Je n'aurais pas prêté attention. Cela aurait été comme toutes ces fois où tout allait bien pour Israël, et où ils ont oublié Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Mais il a orchestré les choses dans ma vie pour que, au moment où il a choisi de m'appeler, tout comme vous. Quand le moment, jeunes gens, quand il commence à actionner ce déclencheur et que vous pensez, je dois prendre une décision, cherchez ces actions dans votre vie. Peu importe que vous soyez appelé et que le monde change, mais si vous avez été élevé dans l'Église, la même chose s'applique. Il arrive un moment, vers l'âge de 19 ou 20 ans, où vous commencez à vous dire, d'accord, voici les aspects positifs qui expliquent pourquoi je vis de cette façon, pourquoi mes parents vivent ainsi, pourquoi ils m'ont enseigné cela. Qu'est-ce que je perds vraiment? Car c'est généralement ce qui pousse un jeune à s'éloigner, qu'est-ce que je manque parce que je vis de cette façon? Et c'est difficile, quand on a 19, 18 ou 20 ans, peu importe, de définir ce qu'est réellement un manque dans le contexte de la vie, car on va vivre tellement d'expériences dans sa vie. Ce que vous considérez comme important aujourd'hui ne l'est pas vraiment. Je suis désolé. Mais ce n'est pas le cas. Vous trouverez un emploi, vous réussirez, vous ferez tout ce que vous avez à faire. En tant que chrétien soutenu par Dieu, vous ne passez pas à côté de quoi que ce soit. Lorsque nous avons été appelés, c'était le bon moment, lorsque nous avons été appelés, nous tous. Dieu choisit nos vies, guide nos vies d'une certaine manière, parce que Satan veut que nous regardions en arrière. Il veut que nous ramenions cette Égypte dans nos vies. Il veut que ce soit plus difficile. Et quand les gens partent, c'est souvent le cas, pendant une courte période, les choses s'améliorent. C'est incroyable. J'ai vu cela se produire avec des gens à maintes reprises. Ils quittent l'église, et les choses s'améliorent. Vous savez pourquoi? Parce que Satan veut que cela dure. Il veut qu'il reste dehors. Ce n'est donc pas Sodome, où l'on se dit, bon, cela suffit, j'arrête. Boum, feu et soufre, éclair. Personne ne. Tout le monde dirait, oh, tant pis, je vais me rasseoir. Ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'était le cas, cette église serait aussi grande que la planète entière, car tout le monde serait terrifié, et c'est ainsi que fonctionnera le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas désobéir. Si vous le faites, il y aura des conséquences. Mais dans nos vies, c'est un peu différent, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi évident. Parfois, les choses semblent plus positives parce que Satan s'arrange pour qu'elles en aient l'air jusqu'à ce que vous soyez trop loin, que vous ayez quitté le tableau, et alors cela. Et vous savez ce dont Satan se fiche? De vous, de moi. Donc, à partir d'un certain moment, je n'ai plus à m'occuper de cette personne. Ce n'est pas mon travail, je suis Satan. Et puis les choses tournent mal. Souvenez-vous de la femme de l'eau. C'est la clé. Souvenez-vous de la femme de l'eau. D'accord. Alors, pourquoi devons-nous laisser l'Égypte derrière nous? Nous en avons beaucoup parlé jusqu'à présent, mais passons au chapitre 14 du livre des Nombres. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Donc, chapitre 14 du livre des Nombres. Alors, pourquoi devons-nous laisser tout cela loin derrière nous? Mais pourquoi devons-nous laisser le péché, l'Égypte, derrière nous, complètement derrière nous, sans regarder en arrière? Pourquoi? Nombre 14, verset 2, 14, verset 2, et tous les enfants d'Israël. Ce n'était même pas un seul. C'est incroyable. Les générations ne se sont pas succédées. Donc, verset 2, et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que Dieu nous fasse mourir dans le pays d'Égypte, ou que Dieu nous fasse mourir ici dans le désert. Donc, Dieu va simplement nous faire mourir, alors pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Pouvez-vous imaginer être Moïse? Ce n'est pas souvent qu'on a envie de donner une fessée à un adulte, mais tous ceux qui se sont présentés. Mais vous étiez esclaves. Même Moïse, à une époque, je régnais sur les gens, et vous étiez esclaves, et il avait de la compassion. Et ces gens murmuraient, tous, toute l'assemblée. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés dans ce pays, pour tomber sous l'épée, pour que nos femmes et nos enfants soient en proie? Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Vous savez ce qui les rendait malheureux. Quelle était leur émotion? Ils étaient mécontents. Ils avaient la manne. Ils avaient de la nourriture. Ils ne fabriquaient pas de briques. Je suis sûr qu'ils n'étaient pas fouettés. Les esclaves sont battus. Donc, le travail difficile qu'ils ont maintenant, c'est de marcher. On leur donnait à manger. On leur donnait à boire. Mais pourtant, ils ne se rendaient pas compte des bénédictions dont ils jouissaient. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient. Ils n'étaient pas heureux de ce que Dieu leur avait donné. Et cela fait partie d'un double danger. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons faire autre chose. Allez au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 3. Commencez à lire au verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en aucun de vous un cœur mauvais et incrédule, qui s'éloigne du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Lorsque nous devenons mécontents, cela nous pousse à agir différemment dans notre vie chrétienne. nous cessons d'avoir une confiance inébranlable, ou, en d'autres termes, nous devenons tièdes dans notre vie chrétienne. Le mécontentement conduit à la tiédeur, à ne pas essayer, à faire les choses machinalement. C'était le cas pour moi en cours de mathématiques au lycée. Je me suis inscrit en mathématiques. C'était très facile pour moi. J'avais négocié un accord avec mon professeur, je pouvais dormir en cours de mathématiques tant que j'avais de bonnes notes aux examens. Et je n'avais pas vraiment besoin d'eux. Je faisais juste semblant. Je savais que je n'avais pas besoin de travailler très dur. Avec le recul, j'aurais probablement fait la même chose. Mais quand on est adolescent, on est fatigué. On a besoin de dormir. J'aurais pu avoir des notes bien meilleures. Mais j'avais des maths faciles. Ce n'était pas difficile. J'étais donc un peu mécontent, et je faisais sans enthousiasme ce que je devais faire pour m'en sortir. J'ai quand même obtenu mon diplôme d'études secondaires et j'ai poursuivi mes études supérieures, mais cela ne s'applique pas aux chrétiens. Vivre notre vie sans enthousiasme, parce que vous ne pouvez pas être zélé tout le temps. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas des êtres débordants de zèle. J'adore cette façon de vivre. C'est génial. Mes frères, je vous embrasse. Non, parfois, on est juste fatigué. Ça arrive. Vous le ressentez probablement tous en ce moment, ou sinon maintenant, juste après le déjeuner. Et si vous avez beaucoup plus d'énergie, vous le ressentirez vers 7 heures ce soir, après la Pâque, et hier soir, et puis ce soir, parce que vous êtes juste fatigué. Vous pouvez donc être fatigué, mais cela ne signifie pas que nous pouvons nous consacrer au christianisme sans enthousiasme. Nous devons nous y consacrer pleinement, et en nous contentant de ce que nous avons et de là où nous sommes. C'est plus facile à faire, car nous ne désirons pas autre chose. Ce sont toutes les choses qu'Israël a faites, tous les aspects qui correspondent à notre cheminement spirituel. Si nous faisons l'une de ces choses, si nous suivons l'exemple d'Israël, nous obtiendrons les mêmes résultats qu'Israël. Nous vivrons la même chose, mais nous la vivrons spirituellement, et ce sera bien pire que ce qu'ils ont vécu. Nous devons nous concentrer. Pensez à la façon dont la Bible décrit la Odyssée. Ils sont tièdes. Cela signifie en gros qu'ils font les choses sans conviction. Ils font semblant d'être chrétiens. Nous faisons le minimum. Je donne la dîme. Je vais aux offices du sabbat. Bien sûr, c'est le minimum. Et savez-vous comment la Bible appelle cela? Un serviteur inutile, lorsque nous faisons les choses à moitié. On attend de nous que nous soyons capables de faire tout ce que Dieu attend de nous, puis d'aller au-delà pour être qualifiés. Car encore une fois, pourquoi sommes-nous qualifiés? Pour être Dieu, pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu, pour faire partie de la classe dirigeante du gouvernement de Dieu pour l'éternité. L'éternité est quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre, et nous pouvons en faire partie. Lorsque notre cerveau, notre petit cerveau humain, peut comprendre une infime partie de ce que cela signifie, nous devrions nous sentir inspirés à l'idée de devenir un être qui pourrait. Arrêtons un instant de parler de l'univers, car parfois, ce genre de choses me donne des frissons. C'est un Dieu qui a créé l'univers, sans parler du fait qu'il peut le replier et le ramener. Il n'y avait pas d'univers. C'est un Dieu qui va ensuite le refaire, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Vous, moi, nous pouvons être des êtres. Imaginons plutôt quelque chose comme Star Trek Q, ou tout ce que vous voulez, afin que vous puissiez voir une télévision dans votre tête si vous avez déjà regardé Star Trek. Nous sommes qualifiés pour être des êtres capables de créer des univers. Capable de créer des univers. Je ne sais pas si nous le ferons, mais nous aurions le pouvoir de le faire. C'est pourquoi nous devons nous inspirer de l'exemple d'Israël. C'est pourquoi nous devons être capables d'éliminer de notre vie tout ce qui nous retient, nous freine, nous fait traîner les pieds. Parce que nous sommes si près d'atteindre le royaume de Dieu, et échouer maintenant, oh, mes frères, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous devons profiter des jours des pains sans levain. Ce faisant, nous deviendrons plus forts, nous pourrons avancer plus vite et grandir davantage, car nous avons ces fardeaux auxquels Israël est plus qu'heureux de retourner, mais nous avons spirituellement éliminé ces fardeaux de notre vie. Bon, si nous regardons en arrière, nous commençons à regarder vers l'avenir. Dieu nous a libérés de ce fardeau. Nous avons vu et nous avons lu que nous avons effectivement la liberté par Christ. Passons au chapitre 19 de l'Exode. Nous en avons entendu parler dans le sermon d'hier, mais nous sommes ici dans un an. Ce n'était pas hier, donc je vais en parler un peu plus ici. Exode chapitre 19. Donc, si nous avons la liberté, nous avons aussi une responsabilité et un but. La liberté exige donc une responsabilité et un but. Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples. Israël est spécial pour Dieu. Même avec leurs faiblesses, leurs reculs et leurs erreurs, ils ont commencé et conclu cette alliance, mais ils ne l'ont pas bien respectée. Ils auront une autre chance. Tu seras pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Verset 6. Tu seras pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ils ont été libérés. Mais lorsqu'ils ont été libérés, Dieu a dit, comme nous l'avons déjà mentionné ici, que vous n'étiez pas libres de faire. Dieu ne nous donne pas. En d'autres termes, Dieu ne nous donne pas l'indépendance. Nous n'avons pas l'indépendance. Nous avons la liberté. Israël n'avait pas l'indépendance qui lui permettait de faire tout ce qu'il voulait. C'est un pays, en particulier, parce que je pense que l'Amérique, parce qu'elle a été construite à partir de la rébellion et de l'abandon de la couronne, il y a un esprit qui dit, nous devons avoir nos libertés, notre indépendance. Et cela fait partie intégrante de l'Amérique. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu attend de vous et moi que nous menions notre vie. Nous n'avons pas l'indépendance. Nous avons la liberté du péché. Mais cette liberté s'accompagne de la responsabilité que nous avons, comme Israël, de respecter l'Alliance. On leur a demandé de le faire. C'est un peu comme si on leur disait, « Vous voulez retourner en Égypte ? » Eh bien, vous n'avez pas à respecter l'Alliance. Voulons-nous retourner au péché ? Eh bien, c'est ce qui arrivera si nous ne respectons pas l'Alliance, si nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne faisons pas tout ce qu'implique le fait d'être chrétien. Nous devons refléter Dieu dans tout ce que nous faisons. Toutes nos actions, nos pensées, nos interactions doivent refléter le fait que nous avons été rachetés par Jésus-Christ, par le sang que nous avons représenté lors de la Pâque, et nous devons vivre notre vie de telle manière que nous puissions dire, « Tu sais quoi ? J'apprécie ce que j'ai pu vivre, ce dont j'ai pu m'éloigner. J'apprécie d'avoir été libéré d'Égypte. Je comprends, Dieu, que j'ai la responsabilité de faire ce que tu nous as demandé de faire, car ton Fils a été tué pour me donner accès au Père, comme nous l'avons vu. C'est une énorme responsabilité, mais c'est aussi notre raison d'être. C'est ce que nous faisons. C'est ainsi que nous avançons. Passons à Romains 6. Romains chapitre 6, verset 20. Romains 6, verset 20, car lorsque, pas si, mais lorsque vous et moi étions esclaves du péché, nous étions libres de la justice. Nous commençons parfois à repenser à notre ancienne vie et à nous dire, oh, nous n'étions pas si mauvais. J'ai fait beaucoup de bonnes choses. Dieu dit, non, non, non. Vous étiez libre, complètement libre. Vous étiez complètement libre de la justice. Comme, oh, d'accord. Ce n'est pas la liberté que je recherche, mais c'est ce que dit la Bible. Nous sommes libres de la justice lorsque nous servons le péché. Quel fruit aviez-vous alors dans ces choses dont vous avez maintenant honte? Nous regardons en arrière et pensons, oh, ce n'était pas. Je ne ferai pas la même chose aujourd'hui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, tous les péchés que nous avons commis, toute l'Égypte dans laquelle nous étions empêtrés dans nos vies passées, la fin ultime de tout cela, c'est la mort, parce que nous étions libres de toute justice. Nous n'obtiendrions pas la justice. Mais maintenant, verset 22, étant affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Tel est notre but. Mais nous devons être libérés du péché. Cela ne signifie pas que nous ne péchons jamais, bien sûr. Cela signifie que nous sommes libérés de la punition du péché, mais cela signifie aussi que nous travaillons pour ne pas pécher. C'est très différent de ce que la plupart des gens croyaient lorsque la loi était suspendue à la croix. Il suffisait de croire en Jésus. Non, ce n'est pas cela. La récompense est plus grande qu'ils ne le comprennent, mais le travail est plus difficile. Pour la plupart des chrétiens professant dans le monde, la récompense consiste à monter au ciel et à faire ce que l'on veut pour l'éternité dans un nuage. Mais ils n'ont aucun travail à accomplir pour cela. C'est à peu près la même chose. Ce serait amusant pendant environ 15 minutes. On se dit, oh, c'est génial. Je suis dans un nuage. Je suis dans le ciel. Qu'y a-t-il pour le déjeuner? Et puis l'éternité. Mais vous n'aviez rien à faire. Mais Dieu dit, non, non, non. La récompense que je veux vous donner dépasse tellement ce que quiconque peut même, même si on nous le dit, comprendre ce que cela signifie. Mais j'ai des attentes. Vous devez être libéré du péché. Vous devez éliminer le péché de votre vie. Je dois faire de même. Nous devons l'éliminer de nos actions. Nous devons nous purifier comme nous l'imaginons ces jours-ci et maintenant pour les 7 prochains jours. Lorsque nous mangeons ce pain sans levain, notre esprit devrait penser à cela, j'essaie d'accueillir Jésus-Christ en moi, symbolisé par ce pain sans levain, en éliminant tout péché, tout levain qui pourrait apparaître. Si vous trouvez du levain pendant la semaine, vous ne dites pas, oh, j'ai raté ce morceau de pain grillé. Vous savez quoi? Mieux vaut ne pas le gaspiller, onomatopée. Non. Vous allez prendre ce toast et être horrifié. C'était juste drôle. C'est l'expiation, pas les jours des pains sans levain. Mais nous étions de l'autre côté de la ville, dans l'autre bâtiment, et nous faisions les CBL de l'église, les leçons bibliques pour enfants. Nous étions à mi-chemin, donc à l'arrière, c'était. La plupart de l'espace dont nous disposions là-bas était à peu près de la taille de cette pièce à l'époque, et il y avait un couloir, qui était notre salle du courrier, et nous avions étalé une partie des leçons bibliques pour enfants là-bas. Et nous essayons de préparer quelque chose parce que je pense que nous étions sur le point de les distribuer à certains enfants pour les leçons du jour saint. Nous étions donc là-bas. C'était le jour du grand pardon, et j'étais avec un collègue, qui venait de se retourner et travaillait à son bureau. Il s'est retourné, attrapé l'eau qu'il avait laissée sur son bureau, l'a prise et a commencé à boire. Puis j'ai vu son expression changer, et l'eau a jailli de sa bouche. C'est horrible. Si vous trouvez du pain dans votre vie en ce moment, vous pensez, oh, c'est un. C'est pourquoi vous ne voulez pas que le pasteur, le dernier jour, lors des annonces, dise, bon, qui a dérapé? Et vous vous dites, peut-être qu'il oubliera cette fois-ci. Non, parce que nous sommes horrifiés que ce péché, qui en est le symbole, ait refait surface dans nos vies. C'est la responsabilité d'un chrétien. Nous devons être capables de faire cela, et lorsque nous le faisons, lorsque nous prenons cela et le mettons derrière nous, nous ne regardons pas en arrière, nous mettons l'Égypte derrière nous, nous ne regardons pas, nous commençons à faire autre chose. Nous commençons à prendre de l'élan. Si vous courez, vous courez, vous prenez de l'élan, vous vous mettez en mouvement. Si vous êtes cette balle qui roule en bas d'une colline, ou si vous imaginez cette boule de neige qui devient de plus en plus grosse à mesure qu'elle roule et roule, elle grossit et prend de l'élan. L'élan est une équation scientifique amusante, car il fait vraiment la différence lorsque les choses se mettent en mouvement et continuent d'avancer. Allez à Hébreux 12, livre terminé. Car la victoire pour vous et moi est devant nous, pas derrière nous. Hébreux chapitre 12, verset 1, Hébreux 12, 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, débarrassons-nous de ce qui nous alourdit, et le péché qui nous enveloppe si facilement, le péché s'empare facilement de nous, et croirons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée sans nous écarter ni reculer. Nous nous débarrassons des poids, nous nous débarrassons de ce qui nous ralentit, et nous nous concentrons sur ce qui est devant nous. C'est la course qui est devant nous. Si vous avez déjà participé à une course, nous avons organisé plusieurs courses sur le campus, vous entendez des pas derrière vous et vous pensez, « D'accord, je vais me retourner. » Mais si vous vous retournez, c'est à ce moment-là que vous trébuchez et tombez par terre, et cette personne vous dépasse. Non, vous devez simplement vous concentrer sur la fin, courir plus vite, travailler plus dur et créer une dynamique. Verset 2. Ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé la honte, et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu. Ainsi, chaque fois que la course devient un peu plus difficile, nous ne sommes pas sur une croix. Nous ne sommes pas sur un poteau. Nous ne sommes pas pendus. Cela ne rend pas les épreuves plus faciles. Mais les épreuves avec un contexte sont toujours plus faciles à gérer, car quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ou ce que vous vivez, la vie peut parfois être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais nous n'avons pas été mis sur un poteau. Nous pouvons connaître la vie éternelle. Encore une fois, la récompense est grande, mais il y a des conditions à remplir. Nous continuons à courir. Nous continuons à avancer et nous sommes capables de faire tout ce qui nous est demandé. Revenons au chapitre 14 du livre des Nombres. J'aurais probablement dû y mettre un marqueur, mais nous avons presque terminé, alors ne vous en faites pas. Chapitre 14, verset 4 du livre des Nombres. Chapitre 14, verset 4. Verset 4. Et ils se dirent les uns aux autres, « Prenons un chef et retournons en Égypte, car Israël ne comprenait tout simplement pas. » Alors Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Donc tous ceux qui avaient fait tout le dur travail des, disaient, « Non, non, nous pouvons affronter ces géants. nous pouvons recevoir le pays que Dieu nous a promis. » Et ils parlèrent à toute la communauté des enfants d'Israël, en disant, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays extrêmement bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera, un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur. » C'est là le problème, ce ne sont pas les ennemis, ni les épreuves, ni les choses que nous vivons dans notre vie. Ce ne sont pas ces choses qui vous arrêteront, mes frères, ni moi. C'est lorsque nous nous rebellons contre Dieu, lorsque nous nous éloignons de Dieu, que nous oublions tout ce que Christ a fait pour nous donner accès au Père. C'est cela qui nous ralentira. Ne vous rebellez pas contre le Seigneur, et ne craignez pas les habitants du pays. Ne craignez pas non plus votre employeur, ceux qui vous entourent, car ils sont destinés à nous servir. Si vous avez un mauvais employeur, vous n'allez pas le tuer, mais Dieu peut régler le problème. Dieu règle nos épreuves. Leur défense s'est éloignée d'eux, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Quelle que soit la situation difficile que vous et moi traversons à un moment donné de notre vie, que ce soit aujourd'hui, demain ou à tout autre moment avant le retour de Jésus-Christ, ne craignez pas l'épreuve, les gens, les tests. Sachez que Dieu dit, « Je veux que vous traversiez ces épreuves. J'ai besoin que vous forgiez votre caractère, car, encore une fois, je vous donne la divinité, la famille, une partie de la famille de Dieu pour être Dieu, l'être qui a créé l'univers. Vous voulez vous amuser à spéculer? Qu'a-t-il créé d'autre dont nous ne savons même pas l'existence? Je ne sais pas. Il a créé l'univers. Donc, la seule façon de connaître la réponse à cette question est de continuer à avancer dans cette voie, sans regarder en arrière. Allez au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. C'est plutôt un avertissement. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Nous ne pouvons pas reculer. Pourquoi est-ce que je lis ce verset? Mes frères, Dieu ne vous ramènera jamais, jamais en Égypte. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Permettez-moi d'être plus concret. Que voulez-vous dire? Bien sûr, il ne me conduit pas au péché. Non, Dieu vous a conduit à la véritable Église de Dieu. Si, dans votre esprit, vous pensez que ce n'est pas le bon endroit, étudiez davantage, consultez un pasteur, car Dieu ne vous conduit pas à un endroit pour ensuite vous en éloigner et vous faire revenir, car tout ce que vous faites qui s'éloigne du mode de vie de Dieu est un retour en arrière. Donc, si vous, dans votre esprit ou dans le mien, si nous pensons, d'accord, peut-être que ce n'est pas. Non, c'est le diable qui essaie de vous faire reculer, ce n'est pas Dieu qui vous fait avancer. Ce sont les pas en avant qui vous ont mené ici. Ce sont les pas en avant qui vous mènent au royaume de Dieu. Revenir en arrière ne mène jamais à rien, et Dieu n'y est jamais présent. Peu importe combien nous prions Dieu ou disons, « Eh bien, j'ai prié à ce sujet et j'ai jeûné. » Non, vous ne l'avez pas fait. C'est la volonté humaine, c'est tout. Dieu ne nous ramène jamais en arrière, car nous ne reculons jamais. Nous avançons toujours. Bon, il nous reste un peu de temps, alors voici quelques exemples de ce que nous pouvons faire pour rester concentrés et ne pas nous détourner, regarder en arrière, penser au passé ou revenir en arrière. Exode 13. Exode chapitre 13, verset 17. Le verset 17 d'Exode 13 dit, « Et il arriva, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien que celui-ci fût proche, c'était un chemin facile. Ils auraient pu y aller. Cela n'aurait pas été aussi difficile. Car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre et ne retourne en Égypte. S'il est facile de revenir en arrière, alors il est plus facile de faire demi-tour et de retourner en Égypte, de retourner au péché, de retourner à notre ancienne vie. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le désert de la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en ordre de bataille hors du pays d'Égypte. Il est difficile de revenir en arrière à travers la mer Rouge que Dieu a séparée puis refermée. Il n'y avait pas de bouton d'ouverture de l'autre côté de la mer Rouge. Oh, eh bien, j'ai fait une erreur. Allez. Non, Dieu a rendu cela difficile. Et il l'a fait exprès. Dans nos vies, nous devons choisir de rendre le chemin du retour difficile. Nous devons brûler les ponts avec l'Égypte. Et cela peut signifier toute une série de choses dans nos vies. Cela peut signifier qu'il y a des amis dans votre vie passée qui vous ramènent à des choses que vous aviez l'habitude de vivre. Vous devez brûler le pont. C'est difficile. C'est dur. Mais à un moment donné, vous pouvez leur enseigner le mode de vie que vous avez choisi. Mais s'ils vous tirent dans une direction, vous devez brûler le pont. Il peut s'agir d'un travail qui vous oblige à compromettre le sabbat, ou à vous en approcher dangereusement, ou d'une lutte constante. Vous devez brûler le pont. Peu importe ce que c'est à vous de décider, et c'est une question de degré. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler à 100% de toutes les personnes que nous avons connues, ou que nous ne sommes pas un exemple. Non, il existe de nombreux autres versets qui disent que nous sommes une lumière, que nous sommes un exemple. Mais s'il y a des personnes, des expériences, des carrières, ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait nous retenir, nous faire regarder en arrière, nous devons brûler les ponts. Nous ne nous donnons pas de porte de sortie. C'est ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi le don est une chose extraordinaire. Nous n'avons pas de parachute doré. Nous ne gardons pas une somme d'argent mise de côté, car nous avons brûlé nos ponts en faisant un don. Nous nous sommes concentrés sur le chemin à suivre, sans chercher à revenir en arrière. Donc, si nous rencontrons des obstacles dans notre vie, nous devons à nouveau brûler ces ponts. Allez au psaume 103. Psaume 103. Il y a une autre chose que nous pouvons faire alors que nous arrivons à la fin. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne d'amour et de tendresse. Nous ne pouvons pas oublier toutes les bénédictions que nous avons reçues. Nous devons nous souvenir, répertorier, connaître tous les éléments dont Dieu nous comble dans notre vie. Passons maintenant à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Relions ces deux passages. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Si nous nous souvenons de toutes les bénédictions, de tout ce qu'il fait pour nous, de toutes les portes qu'il a ouvertes, de tout ce qu'il a guéri, de toutes ces choses, alors cela devient facile. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Le verset 16 dit, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Mes frères, si nous pouvons répertorier les choses que nous avons reçues grâce aux bénédictions de Dieu, il devient très, très facile d'être reconnaissant pour ce qu'il fait pour nous. Si nous avons brûlé les ponts qui peuvent nous retenir et que nous regardons vers l'avenir et les bénédictions qui nous attendent, qu'elle soit personnelle ou qu'elle concerne les personnes qui vous entourent. Il est tellement plus facile d'être reconnaissant d'avoir le soutien de ces personnes qui marchent, vivent, traversent, expérimentent et souffrent les mêmes choses que vous, les mêmes choses que moi. Il est plus facile d'être reconnaissant. Et la gratitude nous sauvera, protégera nos vies et bloquera cet an presque plus que tout autre aspect de notre être. Nous le faisons tous les jours. En toute chose, nous rendons grâce. Mais nous devons être capables de saisir dans notre esprit ce pourquoi nous sommes reconnaissants, ce pourquoi nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous devons penser à toutes les bénédictions que nous recevons, comme nous venons probablement de le faire en donnant notre offrande. Ne les laissez pas s'échapper comme s'échappent les jours des pains sans levain. Gardez-les à l'esprit et réjouissons-nous, mais encore une fois, dans tout, rendons grâce. Dieu ne nous a pas appelés hors de ce monde pour que nous restions immobiles. Nous l'avons vu. Il voulait que nous allions de l'avant. Il voulait que nous marchions sur un chemin qui nous conduise au royaume de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Le voyage n'est pas toujours rose. Nous serons mis à l'épreuve. Nous aurons des épreuves. Nous aurons des difficultés. Dieu veut que nous disions, d'accord, il ne va pas regarder en arrière. Elle ne va pas regarder en arrière. Il se concentre sur le royaume de Dieu. Mais nous devons regarder l'esclavage, le péché et la mort de l'Égypte, et tout cela doit être derrière nous. Nous ne pouvons même pas regarder en arrière ce que nous avons laissé derrière nous, car c'est ce qui est arrivé à la femme de l'eau. Devant nous se trouve la vie éternelle. C'est la joie. Tout ce que Dieu vous a promis, à vous et à moi. Mais les jours des pains sans levain sont 7 jours, avec le 14e pour une raison. Au fur et à mesure que ces jours passent, demandez-vous, y a-t-il encore une partie de l'Égypte en moi, à laquelle je m'accroche encore? Y a-t-il des désirs cachés de la vie que j'avais autrefois et que j'étais censé laisser derrière moi? Si c'est le cas, mettez-les de côté. Éliminez le levain. Laissez l'Égypte derrière vous. Et alors nous pourrons avancer vers le royaume de Dieu avec foi, encouragés, enthousiastes, reconnaissants. Mais à la fin, prenons l'Égypte, mettons-la derrière nous, et ne regardons plus jamais en arrière.